Vous écoutez France Inter, il est pile 18h. Bonsoir Fabienne Sintès.
Bonsoir Charline et les amis. À demain pour nous, c'est parti. Le 18-20 de France Inter est ouvert. Mettez vos combinaisons, les amis, et cette fois-ci, plus qu'à l'ordinaire, soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Le 18-20 commence avec ce que vous devez savoir de l'actualité de ce mercredi 22 septembre avec le journal de Sébastien Legénie. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel ce soir commence avec des masques qui tombent.
Les masques des enfants à l'école primaire, ils pourront les retirer à partir du 4 octobre prochain, mais seulement dans les départements dont le taux d'incidence est en dessous des 50 cas pour 100 000 habitants, une quarantaine de départements à ce stade. Principale annonce du Conseil de défense sanitaire ce matin, le pass sanitaire en revanche reste en vigueur dans toute la France. Précision à suivre du service politique. Faire passer l'investissement avant la dette. Le projet de loi de finances pour le budget 2022 fait clairement le choix de la dépense. On verra ce qu'en pensent les économistes. À suivre également l'île de Palma aux Canaries désarmée face à l'avancée inexorable de la lave. La ville de Paris qui s'inquiète du réchauffement climatique et les trésors de la collection Morozov à Paris pour terminer inauguration aujourd'hui.
À 18h15, un jour dans le monde un peu plus court qu'à l'ordinaire. Ce soir, on a rendez-vous dans l'espace. On n'a pas le droit d'être en retard. Nous parlerons quand même du Royaume-Uni qui voit émerger les conséquences du Brexit maintenant que la marée Covid comme chez nous est moins profonde. On parlera aussi des nouvelles alliances créées par la crise des sous-marins. Mais si Boris Johnson, après sa rencontre avec Biden, espérait un accord de libre-échange inédit, eh ben c'est pas gagné. Et puis donc à 19h pile, on avance un peu le journal de 19h ce soir pour être à l'heure, pile avec Thomas Pesquet. Le rendez-vous est au Cordeau, 12 minutes avec lui en direct depuis l'ISS avec vos questions exclusivement. Il y en a eu des centaines. Merci beaucoup. Promis, on en posera le maximum. La discussion se poursuit ensuite en direct du 104 et aussi à l'antenne avec des invités.
France Inter.
C'est donc un soulagement pour des millions d'élèves et leurs parents.
Des élèves obligés de porter le masque depuis plus d'un an en classe, dans les couloirs parfois, en récréation. Eh bien, le Conseil de défense sanitaire réuni ce matin a décidé de lever cette obligation pour les départements français où le virus circule le moins. Ce sera donc le cas le 4 octobre prochain, notamment dans la Creuse. Une délivrance pour ces écoliers creusois.
Ouais, c'est bien parce que dans l'école, c'est énervant un peu. Des fois, ça bloque un peu la respiration. Du coup, moi, j'aime pas trop et je suis contente que on enlèvera bientôt le masque. Dans la récréation, on n'est pas obligé de le porter, mais sinon on le porte tout le temps.
Moi, on pourrait mieux respirer parce que ça commence à être énervant.
Voilà, des écolières ravies au micro de France Bleu Creuse. Bonsoir Maxence Lambrecq.
Bonsoir.
L'exécutif assouplit donc légèrement les contraintes sanitaires pour les plus jeunes, mais pas davantage.
En effet, Emmanuel Macron voulait envoyer un signal. On ne peut pas demander de gros efforts quand ça va pas et ne rien alléger quand ça va mieux, explique l'un de ses conseillers. Autrement, on perd tout le monde. C'était donc la principale revendication du moment, complète un ministre. Aujourd'hui, ça ferait donc 41 départements concernés par cette mesure, mais d'ici là, d'ici le lundi 4 octobre, la liste devrait s'allonger. Il faut que pendant au moins 5 jours, le taux d'incidence reste sous les 50. On devrait donc arriver à peu près à plus de la moitié de la France. Et dans ces zones, les dernières jauges qui s'appliquaient aux salles de spectacle, aux discothèques vont être levées. Reste une question. Le port du masque restera-t-il obligatoire pour les enseignants du primaire? Eh bien, Jean-Michel Blanquer a d'abord dit non, mais finalement, il attend l'avis du conseil scientifique. Il réunira lundi les syndicats enseignants avant de trancher. Pour le reste, pas de changement. Le pass sanitaire reste en vigueur. Prudence, dit le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.
C'est pas parce que les signaux sont au vert qu'il faut griller des feux. Si ce virus nous a appris une chose, c'est bien qu'il vaut mieux être trop prudent que pas assez. La prudence s'impose, donc le taux d'occupation des lits en soins critiques reste à 97% en Île-de-France, 90% en PACA, 88% en Occitanie.
On va encore attendre 15 jours, glisse un proche d'Emmanuel Macron, avant de toucher au pass sanitaire pour continuer d'inciter à la vaccination et pour que ceux qui ont fait l'effort ne se disent pas tout ça pour ça. Ce devrait être là aussi un allègement territorialisé selon le taux d'incidence, la proportion de personnes vaccinées et secteur par secteur distingué, lieux culturels, sportifs, restaurants et bars.
Maxence Lambrecq a noté les réactions, vous en parliez pour l'instant, très sceptiques des syndicats d'enseignants, l'OSGEN, CFDT, le SE, UNSA, qui se disent inquiets des conséquences sanitaires sanitaire pour les personnels. La carte de France des taux d'incidence à retrouver également sur franceinter.fr. Les États-Unis de leur côté tentent de reprendre le flambeau de la lutte mondiale contre le Covid. Washington qui s'engage à doubler ses dons de vaccins et à distribuer 500 millions de doses de vaccins à près d'une centaine de pays pauvres.
L'heure est à la dépense, pas aux économies.
Voilà pour la philosophie du dernier projet de loi de finances pour l'an prochain, dépenses et investissements pour soutenir la croissance qui reprend après la crise du Covid. Priorité aux missions régaliennes, éducation intérieure, justice et transition écologique. En chiffres, ça donne 11,8 milliards d'euros de plus pour ce budget 2022. Et c'est sans compter avec deux mesures phares qui ne sont pas encore budgétées, le plan d'investissement pour 2030 et le revenu d'engagement pour les 18-25 ans. Bonsoir Delphine Simon.
Bonsoir.
Alors qu'en pensent les économistes de cette politique dépensière?
Alors sortir le carnet de chèques en fin de mandat, c'est vrai que c'est un grand classique. Emmanuel Macron multiplie les annonces depuis l'été pour Marseille, pour les indépendants, les agriculteurs. À quoi s'ajoutent ces deux mesures coûteuses non chiffrées? Tout ça rend impossible l'évaluation par les sages du Haut Conseil des Finances Publiques. Pour autant, le scénario du gouvernement est plausible. L'an prochain, estime Mathieu Plane, économiste à l'OFCE sur France Info.
Il n'y a pas de dérapage budgétaire. Alors, il y a les trous dont on parlait, mais la croissance repart plus vite que prévu. Il y a des recettes fiscales qui sont entrées plus vite que prévu, de la TVA, des cotisations sociales, ce qui est la bonne surprise.
Or, Bercy se montre prudent dans ses prévisions, reconnaît de son côté Hélène Beauchon, économiste chez BNP Paribas. Attention cependant, car des grains de sable risquent d'enrayer cette croissance forte.
Aujourd'hui, l'épidémie de Covid-19 est plutôt sous contrôle et en reflux. Mais on n'est pas à l'abri d'une nouvelle recrudescence, donc ça reste un risque qui pourrait jouer défavorablement sur les perspectives de croissance. On entend beaucoup parler de contraintes d'approvisionnement, de difficultés de recrutement, de hausse du prix des matières premières. Et ça, c'est des grains de sable.
Pas vraiment d'économie dans ce budget 2022, c'est vrai, mais l'an prochain, Paris peut compter sur la clémence de Bruxelles. Les règles budgétaires européennes resteront gelées. Pas question de casser la reprise, estime la présidente de l'exécutif européen.
Delphine Simon, service économique de France Inter. Ajoutons à ces nouvelles dépenses budgétaires un nouveau plan pour développer les soins palliatifs en France. 171 millions d'euros de plus jusqu'en 2024. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui par ailleurs confirme que le midazolam sera désormais autorisé pour les médecins de ville. L'accès à ce médicament utilisé comme sédatif en fin de vie était jusqu'ici restreint. Cette question de la fin de vie était aussi aujourd'hui devant le Conseil d'État. L'association suisse Dignitas pour le droit à mourir dans la dignité a saisi la plus haute instance administrative française. Une première, une façon pour l'avocat de l'association, Maître Spinozzi, de tenter de forcer le Parlement à avancer sur le sujet. On l'écoute.
Ce que nous dénonçons, c'est le caractère très radical de la législation française qui interdit toute possibilité pour un médecin de prescrire des médicaments qui sont susceptibles de permettre à une personne de pouvoir bénéficier d'un suicide assisté, comme c'est le cas dans d'autres pays en Europe. Et nous défendons que ce côté très radical de la loi française, qui ne prévoit aucune exception, est contraire au droit fondamental à pouvoir mourir dignement. C'est bien face à l'inertie législative, le fait que ce débat soit revenu plusieurs fois au Parlement sans aboutir, que l'association Dignitas s'est dit maintenant c'est le moment. Il faut qu'on puisse engager cette question juridique et non plus simplement politique devant les tribunaux français en saisissant le Conseil constitutionnel du droit fondamental à mourir dans la dignité.
Maître Patrice Spinozzi avec Hélène Chevalier. Le procès du ministre des PME Alain Griset n'a pas eu lieu ce matin, renvoyé. Le ministre qui s'est dit dans l'impossibilité de se rendre à l'audience à cause du Conseil des ministres, notamment surprise et colère du parquet. Il n'y a aucun justificatif à l'appui de cette demande. Le parquet qui met des réserves même sur la réalité du ministre de vouloir être entendu par la justice. Le renvoi a malgré tout été acté au 12 octobre prochain. Ils avaient été condamnés il y a 2 ans pour avoir décroché des portraits du président Macron, condamnation cassée cet après-midi par la Cour de cassation, la plus haute instance judiciaire qui estime que ce vol pourrait relever de la liberté d'expression. La Cour d'appel de Bordeaux devra donc rejuger l'affaire.
Les habitants des Canaries impuissants face aux coulées de lave.
Une avancée implacable du volcan Cumbre Vieja sur l'île de Palma, entré en éruption ce week-end. Pas de victimes, mais des dizaines d'hectares et plus de 300 maisons détruites, plus de 6000 personnes évacuées sur cette île peuplée de 85 000 habitants. L'inquiétude, c'est maintenant le contact entre la lave en fusion et la mer avec des risques d'émanation de gaz. Le président président de la région des Canaries, vient de s'exprimer, témoignage recueilli par Benjamin Elie.
Pero sigue su camino.
L'avancée de la coulée de lave est inexorable. Face aux journalistes, le constat sans appel du président de la région des Canaries, Ángel Víctor Torres.
No se puede hacer nada.
Il le répète, face à l'avancée de la lave, rien ne peut être fait. Pas de barricade, pas de fossé ou de parapet, rien de tout ça ne pourra l'arrêter. Les pompiers sur place ont pourtant engagé une tentative désespérée. Dévier la coulée menaçant le village de Todoke vers un ravin. Nous sommes à 2 km à vol d'oiseau de la côte, avec toujours le risque qu'au contact de l'océan, cette lave provoque des émanations de gaz toxiques et des projections. À El Paso, une autre commune où une bouche éruptive est apparue dans la nuit de lundi à mardi. Les habitants sont toujours sous le choc. C'est horrible, nous confie Ureña, 42 ans. Elle s'est réfugiée dans une maison hors du périmètre d'évacuation. J'ai perdu ma maison, toute ma vie, je n'ai plus rien. Ce volcan a brisé ma vie et celle de tous mes voisins. Et j'ai peur parce que toute la nuit, on entend le bruit du volcan. Il est grand, terrifiant. La journée, il paraît plus tranquille, mais la nuit, il se met en colère. Selon les experts, l'éruption pourrait durer entre 24 et 84 jours.
Benjamin Elie, ils se sont parlé cet après-midi. Les présidents français et américains ont une conversation téléphonique à la demande de Joe Biden, dit-on du côté d'Emmanuel Macron. Une clarification attendue par Paris depuis la crise des sous-marins australiens. La ville de Paris est au bord de la surchauffe. Les épisodes caniculaires et les crues vont se multiplier dans les prochaines années. C'est le constat inquiétant d'une étude réalisée par la mairie de Paris. Bonsoir Célia.
Bonsoir Sébastien.
Un rapport qui présente aussi des solutions pour tenter de contenir cet emballement climatique.
Oui, car à Paris, la température a déjà augmenté de 2 degrés et cette étude n'exclut pas des pics de chaleur à 50 degrés l'été. Il faudra donc s'adapter. Dan Lert est l'élu chargé du plan climat.
Nous attendons évidemment à des canicules, des événements climatiques extrêmes de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses, notamment les canicules, mais aussi les inondations liées potentiellement à des pluies torrentielles. Nous avons aussi des étés qui seront plus chauds. L'été de 2003, par exemple, va devenir la norme à Paris, et plus rapidement que prévu. Donc nous avons une accélération, finalement, du changement climatique à Paris. Et donc nous prenons en compte ces projections climatiques pour protéger, évidemment, les Parisiens.
Alors face à cela, la mairie crée des espaces verts, ouvre les parcs la nuit en été. Il y a un millier de fontaines, mais ça ne suffit pas. Cet élu promet davantage.
La première mesure que nous allons prendre, c'est évidemment de planter des arbres à Paris en grand nombre. Ensuite, des ombrières que nous déploierons dès l'été 2022 pour faire des nouveaux espaces ombragés. Un plan volet pour équiper les immeubles qui sont encore dépourvus de protection solaire pour le confort d'été notamment. Et puis, nous allons aussi développer notre réseau de froid, qui est un atout majeur pour la ville de Paris, et notamment pouvoir raccorder les hôpitaux parisiens à notre réseau de froid.
Et ces réseaux de froid urbains qui évacuent la chaleur des bâtiments et la compresse doivent remplacer progressivement les systèmes de climatisation très mauvais pour le climat.
Célia Kiré, merci. Ajoutons encore à ce chapitre environnement la volonté de l'OMS de durcir ses normes sur la pollution de l'air. L'Organisation mondiale de la santé qui divise par deux le seuil d'exposition aux particules fines à ne pas dépasser.
Et on termine avec l'une des plus grandes et des plus belles collections de tableaux du monde.
Et c'est à Paris à la Fondation Vuitton qui accueille la collection Morozov, impressionnisme, cubisme, avant-garde russe, inauguration aujourd'hui. Bonsoir Isabelle Pasquier.
Bonsoir.
Et ces 200 chefs-d'œuvre sont éblouissants.
Oui, c'est un feu d'artifice d'icônes de l'art. On découvre l'incroyable audace de ces deux frères qui, très jeunes, à peine 20 ans, osent acheter des Gauguin, Cézanne, Matisse et plus tard des Picasso, alors qu'à l'époque en France, ils sont carrément boudés. Les Morozov ont un projet muséal. Ils commencent par les impressionnistes, puis les post-impressionnistes, Monet, Manet, Renoir, Pissarro, Toulouse-Lautrec. Ils ont adoré Bonnard avec, vous le verrez, son cycle des quatre saisons et Cézanne avec ses arbres bleus et la Sainte Victoire. Et on se pâme devant 9 toiles de Gauguin de sa période tahitienne.
Merci Isabelle, parce qu'il est la collection. Ah non, pardon. Les Morozov passaient également des commandes aux artistes, pardon.
Et oui, c'était un peu court quand même. Hein. Alors, notamment dans les commandes, il y a ces 3 toiles de Matisse peintes au Maroc, avec une palette de bleu fascinant. Autre commande à Maurice Denis, autour des amours de Psyché pour leur salon de musique dans leur palais, reconstitué dans l'exposition. Jean-Paul Clévry est le conseiller de Bernard Arnault.
Ici, nous sommes dans le salon de musique du palais Morozov, commandé par Ivan Morozov à Maurice Denis en 1910. Donc c'est un ensemble de 11 panneaux monumentaux. C'est toute une architecture et tout un lieu où la famille Morozov recevait tous les musiciens russes et donnait des fêtes mémorables.
Et vous aurez un choc devant la ronde des prisonniers de Van Gogh. Vous découvrirez aussi l'avant-garde russe. Bref, si vous avez adoré la collection Choukine, vous allez aussi adorer la collection Morozov. Et si vous aviez raté Choukine, ce sera un magnifique rattrapage.
Isabelle Pasquier, merci. La collection Morozov à la Fondation Vuitton, réservation obligatoire.
Merci beaucoup Sébastien. Vous revenez sous les radars dans un instant, un peu raccourci pour ne pas nous mettre en retard dans notre rendez-vous avec Thomas Pesquet. Et je vous le rappelle, c'est à 19h précise, on n'est pas en retard avec la NASA. Thomas Pesquet en direct de l'ISS avec vos questions. Il est à 40 jours de son retour sur Terre. On est content de savoir comment il va, où il en est de ses expériences. Ce sera donc en direct sur France Inter et dans le studio 104 qui est plein à craquer. La discussion spatiale se poursuivra après lui. On est vraiment ravis. La météo sur Terre, sinon, ça dit quoi?
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, pour ma santé, c'est Via Santé.
Et donc Sébastien Léas, comme un lundi au soleil, sauf qu'on est mercredi et demain c'est jeudi.
Effectivement, ouais. Sur de nombreuses régions comme le bassin parisien, les Pays de la Loire, le Languedoc, la Provence ou encore la Corse, le soleil s'imposera encore dès les premières lueurs du jour. Mais sur les autres régions, l'ambiance pourra être un peu brumeuse et grise au petit matin. Sur la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, dans le Val-de-Saône et la vallée de la Garonne ou encore dans les vallées du Massif central, les nuages bas et brouillards seront même assez fréquents. Peu à peu, ces grisailles vont s'effacer pour laisser place à un temps ensoleillé. Près de la Manche, les nuages feront plus de résistance et seront encore prédominants l'après-midi. Et puis le ciel sera plutôt nuageux aussi l'après-midi sur les Pyrénées, avec même quelques averses sur les hauteurs.
Fraîcheur matinale quand même, Sébastien.
Oui, le ciel dégagé et l'absence de vent durant la nuit prochaine vont favoriser une ambiance assez fraîche, voire froide. Comme ce matin, les températures pourront une nouvelle fois être inférieures à 5 degrés. On attend par exemple 4 degrés à Fontainebleau, Alençon ou encore Verdun. En revanche, le soleil de l'après-midi va s'accompagner de douceur. Prévoyez 18 à 29 degrés sur la majeure partie du pays, avec 20 degrés pour Cabourg, 22 degrés à Rennes et Arras, 24 degrés à Célestat et 29 degrés du côté de Calvi.
Sébastien Léas de Météo France, merci beaucoup.